Il est 6h sur Europe 1.
La vaccination, c'est un moyen efficace de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois. Il faut que les pouvoirs publics n'hésitent plus à rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant.
Oui, sauf que les soignants ne sont toujours pas très enclins à se faire vacciner, sauf que le Covid est devenu la première maladie nosocomiale. 44 000 personnes l'ont contracté à l'hôpital. La fracture au sein de l'Union européenne face au retard de la livraison de doses. Plusieurs pays ne veulent plus attendre et vont chercher leur vaccin à l'étranger. Dans ce journal, le très mauvais bilan des soldes d'hiver, les deux semaines de prolongation n'ont pas suffi à inverser la tendance. Et puis les syndicats ne veulent toujours pas de la réforme de l'assurance chômage. Ils dénoncent notamment le nouveau mode de calcul des allocations censé entrer en vigueur le 1er juillet.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu ce matin est un écrivain, l'un de ceux qui vend le plus de livres en France. Il vient partager avec nous sa passion pour le ping-pong, le tennis de table qu'il occupe entre deux best-sellers. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le chacun chez soi, voici le chacun pour soi. L'unité européenne vole en éclats en pleine course au vaccin contre le coronavirus. Plusieurs pays commencent à trouver le temps long et sont désormais en lien avec la Chine, la Russie ou Israël pour sécuriser des doses. C'est le cas de l'Autriche, du Danemark ou encore de la Pologne. Isabelle Horry, ces pays critiquent ouvertement la lenteur de la stratégie européenne.
Oui, ils critiquent et ils passent aux actes. Dès demain, le chancelier autrichien et la première ministre danoise seront en Israël pour discuter d'un futur partenariat. De son côté, le premier ministre slovaque a donné une conférence de presse devant les premières caisses de Sputnik livrées à son pays. Les Tchèques, eux, attendent les leurs. Le Polonais a appelé son homologue chinois pour faire affaire. Quant au Hongrois Viktor Orban, il s'est fait injecter le sérum chinois de Sinopharm devant les caméras. Face à tout cela, la Commission européenne n'a d'autre choix que de serrer les dents. Après tout, les États sont souverains et libres de leur choix de santé. Mais c'est très désagréable, c'est un moment très compliqué pour nous, lâche une source bruxelloise. Ces démarches ne viennent pas du cœur du réacteur européen, se rassure un diplomate. France, Allemagne, Italie ou encore Espagne continuent à serrer les rangs. Face à l'impatience des opinions publiques, c'est normal de jouer sur plusieurs tableaux. C'est de la politique, décrypte un expert fataliste. À Bruxelles, les Européens rappellent aussi une chose. Malgré les critiques, aucun des pays protestataires n'a renoncé aux doses commandées dans le cadre des contrats communs.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Aux États-Unis, Joe Biden se montre confiant. Le président américain assure qu'il y aura suffisamment de vaccins pour tous les adultes d'ici la fin du mois de mai.
En France, plus de 3 millions de personnes ont déjà reçu une première dose et la campagne va s'accélérer puisque l'utilisation du sérum AstraZeneca est élargie.
Et pourtant, il y a toujours un lieu où la vaccination coince. Dans les hôpitaux, par exemple à Paris, seuls 34% des soignants se sont fait piquer. Résultat, les contaminations se multiplient dans les établissements de santé à tel point que le Covid est devenu la première maladie nosocomiale. Une situation qui ne peut plus durer, selon François Chaste, président honoraire de l'Académie de pharmacie.
Les personnels de santé ont l'habitude d'avoir à remplir des conditions liées à la vaccination obligatoire. Essentiellement, 5 vaccinations obligatoires. La diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG contre la tuberculose et l'hépatite B. Je rappelle que pour la Covid-19, on a quand même bientôt 4 millions de cas en France. Je crois qu'il est temps de se poser des questions sur, non pas sur les moyens qui ne marchent pas ou qui sont irréalistes, mais sur ce qui marche simplement, facilement et rapidement. Et la vaccination, c'est un moyen efficace de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois. Il faut que les pouvoirs publics n'hésitent plus à rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les EHPAD.
Rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant. Voilà ce que dit donc François Chaste, le président honoraire de l'Académie de pharmacie. Il répondait à Victor Dolande.
Emmanuel Macron présidera tout à l'heure un nouveau conseil de défense sanitaire. Au cœur des discussions, l'élargissement des restrictions dans les 20 départements placés sous surveillance renforcée. Il pourrait notamment y avoir de nouveaux confinements locaux le week-end. Et puis en Guadeloupe, un couvre-feu sera instauré de 22h à 6h du matin à partir de dimanche. Face à la progression du variant britannique du virus et la détection d'un autre variant, le brésilien ou le sud-africain.
Il est 6h05 sur Europe 1. Un témoignage ce matin en direct sur Europe 1 à 7h40 dans le tête-à-tête Europe Matin de Mathieu Béliard. Colline Berry, la fille de Richard Berry, sera dans ce studio. Elle reviendra sur les accusations d'inceste qu'elle porte à l'égard de son père.
Et à ce propos, il y aura bientôt des enquêtes systématiques sur les crimes et délits sexuels sur mineurs. C'est la volonté du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il a envoyé une note en ce sens à tous les procureurs de France la semaine dernière. L'objectif, Chloé Triomphe, c'est que même quand les faits sont prescrits, les dénonciations de victimes ne soient pas laissées sans suite.
Oui, c'est une directive qui a des finalités multiples, explique le ministre. D'abord, vérifier s'il y a effectivement prescription. Ensuite, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. Et enfin, permettre à la personne mise en cause de s'expliquer dans un cadre légal, celui d'une audition ou d'une garde à vue, qui permet aussi le respect de la présomption d'innocence. Sur la finalité donnée à l'enquête, le ministre veut également qu'elle soit expliquée. Si le dossier est classé sans suite, la justice devra en effet en donner les raisons aux victimes, leur préciser si c'est uniquement parce que les faits sont trop anciens et donc prescrits, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment caractérisés, ce qui, en l'absence de procès, ne délivre pas le même message. Enfin, dans le cas d'une affaire médiatisée, les procureurs devront aussi rendre publics les motifs de leur classement sans suite pour mettre un terme à la propagation d'informations calomnieuses.
Les précisions de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Jean-Jacques Hano écope de 9 mois de prison avec sursis et 120 000 euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Le réalisateur n'avait pas déclaré au fisc plus d'1 million d'euros versés en 1997, une partie de sa rémunération pour le film 7 ans au Tibet. Toujours autant d'inégalités entre les hommes et les femmes dans les entreprises, selon un sondage de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Près de 9 femmes sur 10 estiment qu'elles n'ont pas que ces inégalités n'ont pas diminué au cours des 5 dernières années. Et concernant les rémunérations, la moitié de l'ensemble des cadres considère qu'il existe des inégalités salariales à même niveau de poste et compétences équivalentes.
Les soldes d'hiver se sont achevés hier soir avec un bilan très contrasté.
Elles avaient été décalées puis prolongées de 2 semaines pour tenter de pallier les effets du couvre-feu à 18h et de la fermeture des grands centres commerciaux. Alors les chiffres varient selon les secteurs et les régions, mais Aurélien Fleureau, clairement, la majorité des commerçants font grise mine.
Oui, beaucoup de morosité, hein, c'est vrai, dans le secteur après cette période de soldes. La seule satisfaction, elle est pour certains commerces de centre-ville qui ont pu bénéficier d'un report des consommateurs suite à la fermeture des grands centres commerciaux. Mais globalement, la baisse du chiffre d'affaires a été de 22% en février selon l'Alliance du commerce qui rassemble 27 000 magasins. Ce n'était clairement pas la période de l'achat-plaisir, comme le souligne son directeur général, Johan Petiot.
Ce que l'on observe dans les flux au niveau global, c'est tout de même une baisse de la fréquentation de l'ordre de 46% en février, donc c'est extrêmement important, ce qui confirme le passage d'un acte d'achat d'impulsion, d'un achat plaisir, particulièrement dans la mode, à un achat préparé, planifié par les clients.
Parmi les secteurs les plus impactés, le textile ou les bijoux, souligne le Procos, la fédération du commerce spécialisé, mais aussi le sport, activité en baisse de 10% selon l'Union Sport et Cycle des magasins où l'effet couvre-feu a été particulièrement ressenti. Désormais, le secteur demande au gouvernement de la visibilité, notamment pour les 25 000 commerces toujours fermés, en mettant par exemple en place une période de 15 jours de liquidation pour écouler les stocks d'invendus.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alerte à la pollution aux particules fines en Île-de-France. La circulation différenciée est mise en place aujourd'hui, au moins jusqu'à minuit. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 et 2 sont autorisés à rouler et les vitesses maximales sont réduites de 20 km/h.
Nous en venons à ces 10 communes d'Île-de-France, dont la ville de Sceaux, qui repartent en guerre contre les pesticides.
Avec une nouvelle stratégie, considérer les produits phytosanitaires comme des déchets pour contourner la décision du Conseil d'État. Florence Presson est la première adjointe à la mairie de Sceaux et vice-présidente du collectif des maires anti-pesticides.
La Commission européenne parle bien de pesticides organiques comme des déchets dangereux, donc c'est bien un déchet en tant que tel. Code de l'environnement, là aussi, on doit voir effectivement l'obligation de gérer ces déchets, de ne pas les laisser sur le bas de la route. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. Les pesticides émettent bien des déchets, et ces déchets-là, donc on est bien dans la responsabilité du maire. Donc pour nous, on est effectivement dans notre bon droit. Concrètement, c'est de nouveau le fait de réaffirmer qu'aucun pesticide ne peut être pulvérisé dans nos communes sous prétexte qu'il n'y a pas l'assurance de pouvoir gérer les déchets.
Les propos recueillis par Mathieu Bock.
Le mode de calcul des allocations chômage va être modifié à partir du 1er juillet prochain. C'est la mesure de la réforme la plus critiquée par les syndicats.
Il aura pour effet de réduire l'indemnisation mensuelle des personnes souvent précaires qui alternent des contrats courts et des périodes de chômage. Pour François Omeril, le président de la CFE-CGC, ce nouveau mode de calcul est inadmissible.
Elisabeth Borne elle-même dit qu'elle a tenté d'adoucir sa réforme, ce qui est une façon d'avouer que sa réforme était très très dure. Mais en vérité, pas grand-chose ne change. Cette réforme est basée sur un point de vue moral qui est de dire que si on baisse les allocations qui sont versées aux chômeurs, ils vont retrouver plus facilement du travail, ce qui est faux et c'est scandaleux de le prétendre. Donc cette réforme, si elle s'applique, elle va s'appliquer visiblement, eh bien elle reste en tout point pour nous définitivement inacceptable.
François Omeril avec Olivier Samin. Et puis ce n'était peut-être pas le plus connu des membres du trio historique qui a démocratisé le reggae, mais c'est lui qui lui aura donné son nom. Bunny Wailer, le fondateur des Wailers, est mort hier à 73 ans. Avec Bob Marley et Peter Tosh, ils ont fait du genre un phénomène mondial. On écoute Bunny Wailer, qui rend hommage justement à Bob Marley avec I Gotta Keep On Moving.
On ne connaît pas précisément les causes exactes de sa mort. Bunny Wailer, qui avait 73 ans, c'était le journal de Sophie Echen, 6h11.